Bonjour et bienvenue sur Radio Pôle Saint-Fort.
Bonjour et bienvenue sur Radio Pôle Saint-Fort pour cette 4e émission depuis le début de l'année. Dans cette émission, nous avons l'immense honneur d'accueillir avec nous Alain Bidard, un réalisateur martiniquais qui a fait le film Battle Dream Chronicles, que vous connaissez sans doute, et qui a obtenu beaucoup de prix à propos de ce film. Après l'avoir visionné, nous allons lui poser quelques questions sur son œuvre.
Bonjour Alain Bidard. Alors, je vous pose comme question d'abord, pourquoi comme choix de film vous avez-vous choisi les films d'animation?
Bonjour. Alors, j'ai choisi le film d'animation parce que j'ai choisi le film d'animation parce que c'est ce que j'ai étudié. Donc, j'ai toujours voulu faire de l'animation, du dessin animé. J'étais vraiment intéressé par le jeu vidéo depuis l'âge de 12 ans, 10 ans. Et c'est vrai que c'était naturel pour moi de m'exprimer à travers l'animation. Donc c'est vrai que j'ai souhaité plus rentrer dans ce qu'on a l'habitude de voir chez les artistes 3D, les artistes d'animation, c'est-à-dire travailler sur d'autres films. Mais bon, je suis retourné ici en Martinique et finalement j'ai commencé à faire des petits courts-métrages. Et du fil en aiguille, on est arrivé à ce long-métrage.
D'accord, merci.
Où avez-vous trouvé cette imagination?
J'ai toujours eu en fait beaucoup d'imagination depuis que j'étais très 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 jeune, depuis un peu 3 ans en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours eu. J'ai toujours voulu créer mes propres histoires. Donc, pas forcément travailler sur les histoires des autres. Alors, j'y travaille sur d'autres histoires, mais j'avais vraiment cette envie de faire un univers qui venait de moi. Et donc l'imagination autour du film, autour de ce film en particulier, ça vient de l'envie de mettre les Martiniquais dans l'animation, parce qu'on n'a jamais été représenté dans l'animation auparavant, mais pas sous l'aspect exotique qu'on a l'habitude de montrer dans ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision ou au cinéma. J'ai vraiment envie de montrer que en Martinique, il y a une philosophie. Il y a une construction sociale, il y a vraiment une réflexion derrière qui nous sommes. C'est pas seulement des gens qui font du carnaval, des gens qui viennent à la croisée, puis voilà. Il y a vraiment une réflexion derrière nous. Et en fait, c'est ce qui m'a inspiré pour pouvoir faire ce film.
Et qu'est-ce que cela vous fait de voir comme ça votre film enfin achevé, votre film après tant d'années de travail?
Ben, ça fait du bien, parce que c'est vrai que c'est long, c'est très très long. On a le temps d'être épuisé par le film, parce que c'est vrai que les 2-3 premières années, on a la passion, on est très très, on est vraiment motivé, donc on commence à travailler sur le film, et on fait des heures supplémentaires en pagaille, et bon, on se bat pour ce film. Au bout de la 4e année, commence à se lasser un petit peu, et c'est vrai qu'à un certain moment, il faut qu'on finisse. Et c'est vrai que les deux dernières années ont été assez difficiles, et c'est vrai que quand le film a pu être officiellement terminé, j'étais vraiment très très content de voir le résultat final.
Pourquoi avez-vous choisi de faire du cinéma?
J'ai choisi de faire du cinéma parce que c'est vrai que au début je voulais faire du jeu vidéo et de l'animation 3D. Donc faire des jeux vidéo, faire des cinématiques de jeux vidéo comme ce qu'on voit dans Final Fantasy ou dans les jeux vidéo habituels. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu cette chance, j'ai travaillé dans certaines boîtes de jeux vidéo, mais après je suis retourné en Martinique, on n'a pas de studio de jeux vidéo. Donc j'ai dû travailler sur mes propres projets. Et comme je ne suis pas programmeur, donc j'ai dû faire ce que je savais faire, donc faire des films d'animation. Et c'est vrai que par rapport à ça, je suis naturellement allé vers le cinéma. Et c'est en fait fait. C'est ce qui explique que je fasse de l'animation pour filles.
C'est donc pour ça que vous avez mélangé un peu le film avec les jeux vidéo?
Oui, parce qu'en fait, le jeu vidéo, je joue à des jeux vidéo depuis très très longtemps. Et c'est vrai que c'est un langage que j'aime bien parce que c'est un langage qui est simple. C'est un langage où on est impliqué dedans. Et en fait, on va rapidement savoir qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on est et comment faire pour gagner. Et j'ai trouvé que c'était un moyen intéressant pour expliquer en fait la géopolitique, la façon dont le monde fonctionne à tout un chacun et notamment aux jeunes.
Et j'aurais aimé savoir quel étude faut-il faire pour être réalisateur de films d'animation.
Alors pour être réalisateur de films d'animation, il faut faire des études graphiques déjà. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va dans une école de 3D qui permet en fait d'apprendre à faire des films en 3D et ensuite, une fois qu'on sait les faire manuellement, on est en mesure de pouvoir les penser. Ou alors on va dans une école de cinéma, purement en cinéma, comme la FEMIS ou les EGVD. Et là, on apprend vraiment à faire du cinéma, mais sans savoir comment créer le film d'animation. Donc, on peut diriger une équipe sans, mais soi-même, on ne saura pas faire vraiment le film. Donc, c'est deux approches différentes. Je pense que l'approche où on apprend tout le métier avant est plus intéressante parce qu'en fait, on a le temps de construire son propre langage. Parce qu'effectivement, chaque réalisateur a sa propre façon de s'exprimer. Et c'est vrai que quand on met la main à la pâte, on découvre en fait des petits raccourcis, des petites choses en fait qui nous permettent de faire passer certains aspects de nous qu'on ne voit pas forcément quand on n'a jamais l'occasion en fait de travailler dans les coulisses d'un film.
D'accord, et vous nous parlez d'animation, mais comment avez-vous précisément réalisé ce film? Est-ce que vous l'avez fait uniquement avec des dessins comme sur une tablette graphique? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, dans certains films, on voit qu'ils ont réalisé des maquettes ou des choses comme ça? Comment est-ce que vous avez fait?
Alors, il y a pas mal d'étapes pour l'animation. La première étape, en fait, qui consiste à dessiner sur papier ce qui va être vu, donc aussi bien les personnages que les décors, que les accessoires. Donc ça, c'est la première chose, c'est que cette étape papier, elle est nécessaire. On ne peut pas démarrer un film comme ça sans avoir prévu sur le papier ce qu'on va voir. Ensuite, on passe sur ordinateur. Donc sur ordinateur, on a ce qu'on appelle les logiciels 3D. Et ces logiciels se présentent comme des espaces virtuels, donc des plateaux de tournage virtuels où on peut tourner autour des objets, on peut mettre des objets, mettre des humains, on peut mettre des projecteurs, des caméras, et en fait on s'amuse à jouer, à déplacer la caméra et à faire que ce soit le plus professionnel, le plus cinématographique possible. Et une fois que c'est fait, on va demander à l'ordinateur de faire un rendu, c'est-à-dire de calculer ce qu'on a prévu qu'il fasse, et on obtient l'image finale.
Et petit, avez-vous déjà envie de faire des films d'animation ou autre?
Alors, films d'animation, non, mais j'ai toujours envie de faire des histoires. L'envie m'a pris depuis l'âge de 3 ans. D'ailleurs, j'ai appris à lire dès l'âge de 4-5 ans pour justement écrire des histoires. je me souviens. J'ai commencé par la bande dessinée. Donc, à l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé par la bande dessinée. Je suis resté sur la bande dessinée pendant à peu près 5-6 ans avant de m'essayer au dessin animé. Donc on est il y a très longtemps, il n'y a pas d'ordinateur, les ordinateurs c'était vraiment très très rare. Pour faire un dessin animé, il fallait vraiment prendre des feuilles transparentes d'acétate et dessiner dessus, peindre, enfin bon, c'était énormément de travail. Donc je m'y suis essayé pour une seconde. J'ai fait une seconde, j'ai vu le travail qu'il y avait derrière, une seule seconde. Et c'est vrai que, bon, après, je me suis dit, bon, il valait mieux apprendre dans une école, pour savoir comment ça se faisait vraiment, mais surtout pour avoir de l'aide. Et c'est vrai que grâce à l'arrivée de l'ordinateur, l'ordinateur a permis d'aller beaucoup plus vite et aussi de limiter beaucoup les équipes. Donc c'est pas venu tout de suite le dessin animé, mais disons que c'est une continuité de la bande dessinée, puisque dans un film, il y a une étape qu'on appelle le storyboard, étape obligatoire qui consiste à prévoir ce qu'on verra dans le film. Et cette étape du storyboard, effectivement, correspond à exactement la bande dessinée. Donc, on va dire que c'est une continuité.
Et étiez-vous seul ou aviez-vous une équipe avec vous pour réaliser ce film ?
Alors, je n'étais pas seul, mais sur la partie artistique, j'étais effectivement seul. Donc, je n'étais pas seul parce que d'autres personnes s'occupaient de la partie commerciale, parce que c'est vrai que, bon, un artiste qui est un bon artiste est souvent un mauvais commerçant, et vice-versa. Donc, c'est vrai que, bon, ben, j'avais des gens autour de moi donc, qui étaient mieux armés pour la commercialisation, mieux armés pour les relations publiques, c'est-à-dire pour pouvoir, en fait, communiquer avec les médias. Maintenant, pour la partie artistique, non. J'ai, à la genèse du film, disons, à la première année, il y a eu cette envie d'avoir une équipe, une très petite équipe de 5 personnes. Donc, le film devait être financé par un partenaire privé qui a abandonné parce qu'en fait, il n'a pas cru dans le projet. Donc, il a fallu choisir soit de laisser tomber le film, soit de le faire seul. Et c'est ainsi que j'ai choisi de le faire seul et de le continuer en fait.
Donc, si j'ai bien compris, pour pouvoir réaliser ce film Battle Clone Gun, il faut savoir dessiner, non ? Pour avoir un minimum de connaissances pour le dessin ?
Oui, il faut savoir dessiner. C'est important de savoir. Alors, dans le style de Battle Dream, qui est un dessin animé qui imite. Donc, c'est de la 3D qui imite le dessin animé. Il faut savoir dessiner, déjà parce que en fait, c'est un style de dessin qu'on va suivre durant 1h48, donc il faut qu'on connaisse les bons côtés et aussi les faiblesses de ce style graphique. Chaque artiste, même les artistes de BD, ils ont des faiblesses, c'est-à-dire qu'il y a certains artistes de BD très connus, hein, qui ne savent pas dessiner les pieds, d'autres qui ne savent pas dessiner les mains, d'autres qui ne savent pas dessiner les personnages de trois quarts, qui préfèrent dessiner de profil. Chaque artiste a ses forces et ses faiblesses, et c'est vrai que pour faire un film comme Battle Dream, il est important de connaître les faiblesses, parce qu'on va essayer de capitaliser sur les forces. Donc, tous les plans qu'on choisit de faire, on va essayer de ne montrer que les forces, et d'éviter les faiblesses. Si on ne sait pas faire les pieds, on va éviter de faire un plan où on voit les pieds. Donc, c'est important de connaître le dessin. Maintenant, au-delà de Battle Dream, les autres films qui se font, les autres films d'animation qui se font, on n'est pas forcément obligé de connaître, de savoir dessiner. Mais il est important de savoir juger quand un dessin est bon, quand il n'est pas bon, quand une œuvre d'art est bonne et quand elle est quand c'est de l'amateurisme. Donc ça, c'est important. Beaucoup de réalisateurs ne savent pas dessiner, mais ils ont cette capacité à juger une œuvre d'art qui fait qu'ils sont, ils ont un jugement suffisamment bon pour mener tout un film d'animation sans savoir forcément dessiner quoi que ce soit.
D'accord, et vous nous parlez des progrès, de l'arrivée d'ordinateur et tout, et bien pensez-vous qu'un jour il pourrait y avoir un monde similaire, ou peut-être un peu moins actionné, mais proche de Battlefield ?
C'est ce vers quoi le monde tend. Donc il y a des projets actuellement, enfin je dis actuels, mais bon, ça fait déjà 4 ans que je seconde ça et je pense que ça a beaucoup évolué. Alors, il y a un projet qui consiste à construire un cerveau entièrement numérique, donc un cerveau uniquement qui existe dans le virtuel. Les travaux sur l'intelligence artificielle avancent à grands pas. On a déjà l'évolution du jeu vidéo vers la réalité virtuelle. Je pense que bon, très bientôt, si ce n'est déjà le cas, la réalité virtuelle va prendre le pas sur le jeu vidéo tel qu'on a l'habitude de le voir. les lentilles qui permettent en fait de voir des fenêtres informatiques dans l'espace existent déjà. Elles ne sont pas encore commercialisées, mais elles existent déjà. Donc ces lentilles, je pense, avant 2025, devraient être distribuées, ce qui va nous permettre en fait, au lieu de regarder sur l'écran, mais on verra en fait les interfaces directement devant nous. On pourra interagir avec elles. Et en fait, on va aller au fur et à mesure vers une espèce de fusion de l'homme et de la machine. Donc, en 2100, bon, c'est pas impossible du tout en fait qu'on soit tellement fusionné avec la machine que l'on vive dans ces mondes virtuels tels qu'on décrit dans le film.
Il y a un dicton qui dit ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais envisagez-vous ou travaillez-vous sur Battle Dream 2 ?
Je travaille, oui, sur Battle Dream 2, donc non seulement le 2, mais je travaille aussi sur un autre film. Mais je travaille effectivement sur Battle Dream 2, puisque c'est un film donc, qui était prévu comme le premier tome d'une trilogie. Donc il y a trois chapitres, il y a trois parties qui sont censées raconter donc, l'histoire de la Martinique. Donc, première partie donc, qui est donc, le premier film qui raconte notre histoire jusqu'à 1848. Donc, qui est en fait une métaphore de notre histoire. La deuxième partie en fait, qui va raconter ce qui s'est passé entre 1848 et la départementalisation, donc jusqu'à 1946, donc notamment l'insurrection de 1870 qui sera remise, on va dire, à la science-fiction. Et le troisième tome, en fait, donc, qui sera vraiment après, et qui va raconter en fait, de 1946 à nos jours.
Et en parlant de ça, pensez-vous que votre film peut être écrit dans des BD ou dans des romans ?
Alors, il est prévu d'en faire au moins une bande dessinée. Donc, il y a une bande dessinée qui est en cours de réalisation et plusieurs autres bandes dessinées sont prévues. Des romans, pas encore, mais oui. Oui. Alors, il y a une série aussi, donc deux séries en fait, qui sont en développement, qui sont en préparation. Donc une série avec ce qu'on appelle en piste de vue réelle, donc avec des vrais acteurs en chair et en os, et une série d'animation en dessin animé qui va raconter ce qui se passe avant le film.
Quelles sont vos qualités en dessin ?
En dessin, alors ça dépend de l'époque, on va dire. Il faut savoir que le dessin, donc à la base, je m'estime bon en dessin. En tout cas, tout le monde me perçoit comme très très bon, donc c'est très très bien. Mais tout dépend de l'époque. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le dessin, il faut le pratiquer. Et ça se perd vite. Donc si on ne pratique pas, ben en fait, ça part. Donc si je reste un an sans dessiner, j'aurais quand même prendre facilement quelques semaines avant de pouvoir recommencer à dessiner comme avant. Donc c'est quelque chose qu'il faut pratiquer tout le temps. Actuellement, c'est vrai que bon, avec la promotion de Battle Dream, j'ai arrêté un petit peu de dessiner, donc c'est vrai que bon, je me perds un petit peu dans mes lignes, mais bon, au fur et à mesure, je vais revenir en fait au niveau que j'avais.
Et en parlant de vos qualités pour le dessin, est-ce que pour vous, vous êtes comme les personnages que vous avez décrits dans le film ?
Alors, les personnages sont, on va dire, il y a une partie de moi dans ces personnages. Maintenant, bon, ils sont aussi, c'est aussi un essai de transposition des figures importantes qu'on a l'habitude de voir en Martinique, donc qui sont retransfigurées, donc personnage d'animation, mais il y a quand même une partie de moi, parce que c'est vrai que quand on écrit, on est on donne sa voix à un personnage, on donne ses mots à un personnage, parce qu'en fait il faut imaginer ce que le personnage fait, comment il bouge, comment il parle, ce qu'il va dire, et donc qu'on le veuille ou non, quand on est créateur, quand on écrit, et quand on fait un film, on est obligé de mettre une partie de soi dans les personnages, donc il y a une très très grosse partie de qui je suis dans tous ces personnages.
Et quelles ont été vos inspirations pour ce film ?
Alors, inspiration, déjà la Martinique et l'histoire de la Martinique, l'envie qu'on se voit dans un dessin animé, parce que c'est vrai que bon, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu de Martiniquais dans un dessin animé. Donc ça j'avais cette envie-là. Le folklore martiniquais, Soukounion, la maman de l'eau, notre histoire, notre culture, la culture africaine, la culture égyptienne, la culture gréco-romaine aussi. Donc ça emprunte en fait dans tous ces livres-là.
Et à part le cinéma et
les dessins,
avez-vous une passion de vous?
Alors, passion de temps en temps, plus maintenant, parce qu'avec, j'ai plus le temps. Mais, passion à côté, je me suis découvert une passion, donc, pendant Battle Dream, pour la musique. Parce que c'est vrai que, donc, alors, la musique de Battle Dream, c'est la première musique que j'ai écrite. J'ai jamais écrit de musique auparavant. Ça s'est fait sur un accident. Parce qu'en fait, le musicien qui devait écrire la musique, en fait, ça s'est mal passé avec lui. Donc, en fait, il est sorti du projet et c'est vrai que il n'y avait pas les fonds pour pouvoir payer le musicien. Donc j'ai dû apprendre la musique et faire la musique par moi-même. Mais c'est vrai que j'ai commencé à aimer faire cette musique. Chose qu'auparavant je ne pensais pas que. En fait, je suis beaucoup plus image et je n'étais pas du tout intéressé par la musique. Et là, effectivement, depuis Battle Room, voilà, je retourne constamment dessus parce que c'est vraiment bien.
Vous avez gagné un prix, il me semble, à Toronto et au Brésil. Y avait-il beaucoup de participants ?
Alors, en général, dans les festivals, ce sont des festivals internationaux qui sont ouverts donc, à tous les pays du monde. Donc, il faut compter qu'en général, dans un festival, on a deux grosses sélections. On a une première sélection où tout le monde envoie ses travaux. Et là, on peut facilement estimer à entre 1000 à 5000 postulants. Donc, quand on se fait sélectionner, c'est vraiment un grand honneur. Et ceux qui sont sélectionnés vont être jugés par un jury, donc un jury réuni pour le festival, et ce jury va décider lequel, parmi tous ceux qui ont été sélectionnés, qui mérite de recevoir un prix. Donc, oui, on va dire... pour un festival, il faut compter en moyenne, au minimum, 1000 postulants.
Et combien de temps avez-vous pris pour faire ce film ?
Le film, donc j'ai pris 7 ans. Donc 7 ans, alors pas vraiment 7 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux premières années où le film a été fait, donc 50 minutes du film ont été faites, et les disques durs sont morts. Donc il y a... Donc, j'avais un disque dur et un backup. Donc, le disque dur est mort, et quand je récupérais les données sur le backup, 3 heures plus tard, le backup est mort. Donc, pendant la récupération. Donc, j'ai récupéré 10% du film, et avec ces 10%, j'ai dû redémarrer tout le film. Donc, ça a pris 5 ans. Donc, les deux premières années, j'étais à 100% dessus. Les 5 années qui m'ont suivi, je n'avais plus la possibilité d'être à 100% dessus. Donc, j'ai passé 6 mois de l'année à chaque fois sur le film. Donc, mais ça a pris, oui. On va dire, si on devait cumuler tout, c'est pas.
Franchement, quand
vous avez perdu le film, comment vous sentiez-vous ? Vous vouliez arrêter ? Vous étiez énervé ? Ou au contraire, ça vous donnait envie de continuer encore plus ?
Sans travailler, vous posez la question, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est vrai que bon, c'est 2 ans de boulot. C'est 2 ans de boulot, c'est énorme. 5 minutes de perdu, c'est phénoménal. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Donc ça a duré un bon mois. Et ensuite, je pense que dans le cadre d'un long métrage, on est dans cet état d'esprit où on a trop fait pour les étendues. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je reprends, je recommence, je repars. J'avais aussi perdu une bonne partie des storyboards, donc j'ai dû vraiment recréer le film de A à Z. Donc, un bon mois à me poser la question, qu'est-ce que je fais ?
vous avez eu en faisant le film.
Qu'est-ce qui se
Combien vous en avez en fait?
Deux points positifs. Alors, déjà le fait de faire un film ici en Martinique, alors que bon, ça se fait pas. C'est le rêve de tous les artistes 3D que de travailler sur un long métrage. C'est vraiment le César, c'est-à-dire que même en France, il y a des artistes 3D qui vont passer leur carrière sans avoir la chance de travailler sur un long métrage. Donc, c'est déjà super de pouvoir travailler sur un long métrage. Son propre long métrage, c'est déjà encore mieux. Sur sa propre culture, ça c'est déjà encore mieux. Et le fait de savoir que bon, ben, c'est une histoire qu'on a créée et qu'on n'est pas. C'est-à-dire que. On sera jugé, les conditions seront moins dommageables que si jamais on devait le faire, par exemple, que si jamais je devais rentrer dans un studio en France et faire un film avec une équipe. Donc, c'est vrai que bon, il y a tout cet aspect-là qui est très positif, qui a permis en fait au film d'avancer sans gros obstacles. Donc, il y a ça, l'apprentissage. Parce qu'en fait, un film d'animation, on n'est pas obligé de démarrer le film en étant fort en tout. Parce que c'est vrai que l'animation, c'est un groupe de métiers, c'est pas seulement un seul métier, c'est un groupe d'au moins une dizaine de métiers. On n'est pas fort dans tout. On est fort dans certaines choses, et puis dans d'autres choses, on est très moyen. Mais dans un film d'animation, on a à peu près 1800 planches. 1800 plans, ça veut dire devoir faire 1800 fois la même chose. Et dans chaque plan, on est obligé de refaire quelque chose des fois, 10 fois. Donc, on se retrouve à faire certaines tâches des milliers de fois, voire plus de 10 000 fois. Donc, même si on était très moyen, on devient très très bon. Donc, ça, c'est le côté positif. L'apprentissage de nouvelles choses. Parce que, comme je l'ai mentionné, je ne savais pas faire de musique auparavant. Ça m'a appris énormément de choses. Le mixage non plus, j'ai dû apprendre à faire du mixage parce que pour pouvoir mixer un film, c'est 75 000 euros qu'il n'y avait pas. Et donc j'ai dû apprendre à faire du mixage par moi-même, construire un studio de fortune, on va dire, et mixer le film par n'importe rien. Donc beaucoup d'apprentissage qui me sert aujourd'hui parce qu'en fait, toutes ces connaissances. Ça me permet en fait de pouvoir faire du meilleur boulot pour les clients qui m'embauchent, pour les futurs contrats, les contrats actuels, et c'est très très positif dans ce sens-là.
Enfin, vous dites sans gros obstacles, mais il y a quand même eu la perte de 50 millions de films. moi, je pense que c'est un gros obstacle, ou alors je pense imaginer les concours.
Gros obstacle, alors il y avait la perte hein, des données. Maintenant, il y a d'autres obstacles qui sont plus. Moins brutaux, mais qui sont là, c'est-à-dire les obstacles en termes de machines, parce que les machines, bon, elles sont jamais assez rapides. Les obstacles en termes de mémoire, les obstacles en termes de bugs, parce que des fois, les logiciels bugent pour on sait quelle raison, et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi ils buguaient, mais bon, ils bugent. Et en fait, on est obligé. Donc, pour donner une petite idée, on achète un logiciel quelquefois pour une fonction très particulière. On découvre que la fonction ne marche pas tout le temps. Et on est obligé de contourner. Et contourner, ça veut dire passer des semaines à essayer de chercher une autre astuce pour essayer d'arriver au même objectif. Et il y a eu beaucoup de ça. Donc c'est vrai que bon, il y a eu des choses très difficiles, d'autres obstacles en termes de difficultés de plan, c'est-à-dire. Des plans de foule qui a eu à abandonner parce que bon, y a eu un moment où on devait voir pas mal de personnages, sauf qu'à partir du moment où vous mettez 4-5 personnages dans une même scène, l'ordinateur dit bye bye, je ne fonctionne plus, c'est trop lent pour moi. Donc, on est obligé de repenser les choses. De trouver des astuces pour fonctionner avec 3-4 personnages que le public ne voit pas, qu'on a essayé de faire une pirouette ici. Donc, beaucoup de difficultés dans ce sens.
Eh bien, quand même, moi, je me dis que 50 minutes du film sur 2 ans, non seulement c'est frustrant, mais après un mois, vous avez sûrement dû vous dire qu'on n'a rien sans rien. Donc, autant continuer et puis voir ce que ça donnera après. Parce que moi, franchement, je ne sais pas si je vais continuer.
Ah,
C'est vrai que c'est un métier de courage. Parce que c'est vrai que bon, ben, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'aide aussi ici en Martinique par le fait que ben, la Martinique est un petit peu boudée par le CNC. Parce qu'en fait, il y a un dispositif de subvention qui existe en France, qui n'existe pas ici en Martinique. Donc, il y a certains projets qui culturellement peuvent être intéressants pour la Martinique, qui peuvent ne pas intéresser Paris, parce que ce ne sont pas leurs priorités. Et si on avait un bureau ici, ça permettrait de développer ces projets-là. Donc, la Guadeloupe a un bureau, la Guyane, je ne sais pas, la Guadeloupe a un bureau, mais pour fonctionner avec le bureau de la Guadeloupe, il faut que le projet soit à 50% guadeloupéen. Donc, il y a beaucoup de compromis à faire. Et ça, effectivement, ça limite énormément. Le fait qu'il n'y ait pas de fond, ça limite énormément l'avancée. Parce qu'on avance mieux quand on a du meilleur équipement, quand on a des ressources humaines, donc du personnel. C'est toujours plus rapide d'avancer comme ça.
Et à quel festival avez-vous déjà participé ?
Alors, festival. Alors, il y a eu 67 festivals. Où le film a été nominé. Maintenant, festival auquel j'ai participé, où je suis allé en personne dans ces festivals, il y en a eu une petite demi-douzaine. Hein. Il y a eu le festival de Montréal, donc le festival du film noir de Montréal. Le festival animé caribé de Trinidad et Tobago. Le festival. Il y a le festival du CMAC, c'est plus le CMAC mais Tropicatrium. Le festival Kingston en Jamaïque. Le festival le BIF. Le festival du film fantastique de Bruxelles, en Belgique. Et le festival de Toronto, le Caribbean Tales. Festival de Toronto, encore au Canada, en septembre dernier.
D'accord.
Et
Alexis, il me semble que tu as une question à poser.
Qu'est-ce que vous entendez par long métrage en termes de dessin animé ?
Alors, moi, c'est vrai que long métrage en termes de dessin animé, pour moi, c'est quand vraiment on voit des dessins. C'est-à-dire que les films que font Pixar aujourd'hui, pour moi, c'est pas du dessin animé, c'est des films en image de synthèse, en 3D. Mais c'est pas du dessin animé. Pour moi, le dessin animé, c'est vraiment du dessin qui bouge. Et ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler 2D dans le métier, pour moi, le dessin animé, c'est ça, où on voit vraiment le dessin du réalisateur ou de la personne qui a mené l'équipe dans le résultat final.
Et toi,
qu'en
penses-tu ?
Quel a été l'élément le plus difficile dans la préparation du film ?
Le plus difficile, l'histoire, je pense. Quand on crée un scénario, dans un film, un scénario est malléable, c'est modulable, on peut le changer à volonté parce que ce sont des mots. Ce sont des mots à taper dans un logiciel de scalpant texte. Donc, on peut changer tout ce qu'on veut, sauf que à partir du moment où le film a été commencé, où on a commencé à produire des plans, chaque changement qu'on fait dans le scénario va se traduire en partie qu'on va devoir en refaire. Donc, ça peut faire perdre énormément de temps, et ça peut même faire refaire le film deux fois, ou trois fois, ou quatre fois. Donc, il est important que le scénario, qu'on le boucle, une bonne fois pour toutes avant de démarrer les images. Et il peut y avoir beaucoup de versions. Pour vous donner une petite idée, tous les films que vous voyez au cinéma actuellement, il faut considérer que vous voyez facilement la 10e, voire la 20e version du scénario. C'est-à-dire que la version que vous voyez en film, il y a eu au moins une dizaine de versions, une dizaine d'histoires basées sur cette histoire que vous voyez auparavant. Donc, pour Battle Dream, ça a été très loin. Il y a eu quand même 50 versions du scénario avant d'avoir la bonne version qui était tournable et qui aurait été intéressante. Alors, pour l'animation, c'est particulier parce que pour l'animation, il faut aussi penser à ce qui est faisable. Par exemple, c'est bien d'avoir un stade rempli de spectateurs, sauf qu'en animation, c'est pas faisable. Ou bien alors, il faut une équipe de 75 personnes qui travaillent dessus, mais c'est pas faisable. Donc, il y a beaucoup de choses dans le scénario à éliminer. Il y a des choses aussi qu'on va découvrir, comme par exemple les scènes de combat. Il faut les espacer avec des scènes plus calmes, parce que les scènes de combat sont très dures à faire, parce qu'il y a beaucoup de mouvements et tout ça. Certaines scènes sont plus difficiles à faire que d'autres. Des scènes dont on n'a pas forcément idée, mais qui sont difficiles à faire, comme par exemple une simple scène de marche. Ça paraît très simple, mais en animation, c'est la chose la plus rébarbative à faire. Mais il faut la faire bien. Et c'est vrai que bon, ça peut se révéler très long à faire. Quand on a les scènes de marche, il faut en faire tout le temps. Parce que si on n'en fait pas tout le temps, on perd les astuces pour le faire. Et quand on perd les astuces, on peut facilement perdre une, deux, trois bonnes journées. Et donc voilà. Donc c'est une difficulté grande.
Et question qui n'a rien à voir avec la question précédente, c'est aimez-vous les mangas ?
J'ai grandi avec les mangas, j'ai grandi avec le Club Dorothée. Ça s'appelait le Club Dorothée avant, vous n'avez pas connu ça, mais bon. Alors, il y avait deux émissions qui s'appelaient, il y a eu une émission qui s'appelait Recréa 2, très très longtemps, et en fait, qui était des émissions de variété qui réunissaient un tas de dessins animés. Donc, c'était vraiment dans ces émissions qu'on voyait un tas de dessins animés, donc tous les enfants de l'époque, donc on parle des années 80. Les enfants de l'époque, en fait, allaient voir cette émission parce qu'ils savaient qu'il y avait pas mal de dessins animés dans cette émission-là. Et ensuite, il y a eu le Club Dorothée qui réunissait en fait un tas de dessins animés japonais. Ça a été vraiment le moment où les dessins animés japonais ont fait leur entrée en France parce que avant, il n'y avait pas trop de dessins animés japonais. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec le manga parce qu'en fait, au fur et à mesure que je grandissais, je découvrais en fait un aspect adulte du manga. C'est-à-dire que à l'âge de 8 ans, j'ai découvert des mangas pour des jeunes de 8 ans. Et à l'âge de 13-14 ans, j'ai découvert des mangas pour adolescents. Et c'est vrai que c'était vraiment incroyable parce que Disney, ben, c'est vraiment que pour les enfants. Et c'est vrai que bon, ben, quand on est adolescent, on a envie de découvrir autre chose que Disney. Et c'est vrai que bon, ben, y a eu Akira, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a eu un tas d'autres dessins animés qui étaient beaucoup plus pour les 14-15 ans. Et j'ai eu l'occasion de grandir avec le dessin animé. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai connu des dessins animés qui étaient très philosophiques, comme Ghost in the Shell, Pat Labore, des dessins animés qui vraiment, bon, considéraient que les enfants, c'est pas simplement bon, des gens sains d'esprit, c'est des gens qui réfléchissent, qui ont une profondeur. Et la profondeur des thèmes dans ces dessins animés-là a fait que bon, ben, les dessins animés m'ont suivi jusqu'à âge très très avancé. J'ai arrêté de regarder du dessin animé, enfin arrêté un petit peu de regarder du dessin animé, ça a vraiment été à partir du moment où j'ai plus vraiment eu beaucoup de temps, donc vraiment il y a peut-être 2-3 ans. Mais bon, par exemple, je suivais pas mal de choses encore, bon, par exemple les Naruto, j'ai suivi quasiment jusqu'à la fin, donc voilà.
Et quel genre de manga aimez-vous lire ou regarder?
Alors, actuellement, bon, des mangas. Alors, manga d'action, c'est ce qu'on appelle le shonen chez les Japonais. Donc, les shonen, donc Naruto, ces genres de Bleach, bon, ces genres de choses-là. Maintenant, il y a d'autres dessins animés que j'aime bien, comme par exemple Fullmetal Alchemist. Il y a aussi des longs métrages, hein. Je regarde pas mal de longs métrages japonais. Maintenant, bon, il y a aussi des films un peu plus, on va dire, un peu plus horreur, pas vraiment horreur, mais bon, un peu plus adulte. Et puis, bon, mais il y a certains dessins animés, mais bon, j'ai pas vraiment le nom en tête, des dessins animés qui sont plus dramatiques. Plus dramatiques, très adultes hein, dans la façon de gérer les choses. Mais j'ai pas vraiment de nom en tête. Mais il y a des dessins animés, enfin, il y a des séries animées qui m'ont déjà fait pleurer. Et tellement c'était intense. Et c'est vrai que par rapport à ça, bon, ben, on va dire, bon, mais ce qui est intense. Donc, principalement de l'action, du drame, et puis des enquêtes policières et beaucoup de science-fiction aussi.
Et tout à l'heure, vous avez parlé du CNC en Guadeloupe. Quelle est cette organisation ?
Alors, le CNC, c'est, donc, ça correspond au Centre National de la Cinématographie, qui est en France, en fait, qui est un organisme, qui est en fait une commission du film. Dans les autres pays du monde, on appelle ça Film Commission. Donc, c'est une commission, c'est un conseil qui réunit des capitaux, donc des fonds, beaucoup de millions d'euros, et en fait qui aide le cinéma, parce qu'en France, on a une vision artistique du cinéma et non pas une vision mercantile comme aux États-Unis. Donc, vision artistique veut dire qu'on va créer des films artistiques que peut-être personne ne voudra voir, mais qu'il faut défendre parce que ce sont des œuvres d'art. Et la France a fait son choix de défendre les œuvres d'art. Donc, elle va donner de l'argent à des projets qui ne vont pas forcément ramener de l'argent. Alors qu'aux États-Unis, dans le reste du monde, c'est vraiment une démarche qui est très très rare. Donc, le CNC, seulement le CNC en France est très. Donc, par rapport à sa vision très artistique, ils ont limité énormément leur vision et ils ont des œillères sur pas mal de choses. Donc, notamment. Si on ne doit rester que sur la France, c'est le fait de systématiquement considérer comme inférieur le film d'horreur, le film fantastique, le film de science-fiction. C'est pour ça qu'en France, vous voyez très peu de films français de science-fiction, très peu de films français très peu de films français fantastiques et très peu de films français d'horreur, parce que le CNC considère que c'est quasiment que c'est pas de l'art, que c'est pas, ça ne mérite même pas leur considération. Donc, c'est vrai que oui, moi j'adore les films d'horreur, les films fantastiques, les films de science-fiction, tous ces films-là. Les Américains font des films dans ces styles-là qui fonctionnent très très bien, mais en France non. Et c'est vrai que par rapport à ça, donc ils ont limité ça, donc ce qui fait que les réalisateurs qui veulent faire ça, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle des indépendants. Ils doivent trouver de l'argent ailleurs, donc dans des petites commissions, dans des petites associations, ou alors de leur propre denier, pour pouvoir réussir à faire leur film. Et parce que la France est aussi un empire colonial, c'est-à-dire que bon, ben, il y a pas mal d'anciennes colonies. En France, eh ben, il est vrai que on a une histoire. Chaque colonie, chaque ancienne colonie a une histoire. Et cette histoire, on a envie d'en parler, mais c'est pas forcément la priorité en France. Et donc, effectivement, on a envie de parler de sa propre histoire, de sa propre culture. C'est pas la priorité. Et donc on est obligé en fait de recourir à ce qu'ils appellent un bureau local, donc un bureau local du CNC, c'est-à-dire un bureau qui est placé dans le département, donc dans le département d'outre-mer, et qui va en fait collecter les projets qui vont avoir ce qu'on appelle un comité de lecture. Donc ils vont lire les scénarios, ils vont juger qu'est-ce qui est artistiquement viable ou pas. Pourquoi ? Parce que le financement d'un film se faisait pendant très très longtemps, ça a été ça, ici en Martinique, ça a été en fait financé par le conseil régional, le conseil général, par la DDJS et d'autres organismes qui ne sont pas des artistes. Donc en fait ils reçoivent le projet et ils regardent l'aspect mercantile. Donc si c'est pas mercantile, ils ne sont pas intéressés de promouvoir un tel projet. Alors, aspect mercantile veut dire qu'il faut que le projet puisse faire la promotion de la Martinique, il faut que le projet soit touristique, il faut que le projet ait des choses en fait, qui soient commerciales Sinon, ça ne t'intéresse pas. L'aspect artistique pur, c'était moins la priorité. Donc, on trouvait quelquefois des artistes, mais ce n'est pas systématique. Alors que la commission du CNC est vraiment faite de réalisateurs, de producteurs, donc des gens du métier qui sont aptes à juger un scénario, donc qui vraiment peuvent juger si un film est viable ou pas. Donc, c'est d'où l'importance en fait de la présence de telle commission dans chaque département.
D'accord. Et Karine, as-tu une question à poser?
Oui. Où avez-vous trouvé le nom des personnages et des attaques?
Alors, nom des personnages d'abord. Alors, les noms des personnages sont issus donc en partie donc de la mythologie grecque, romaine, égyptienne. Alors, on va essayer de passer en revue un petit quelques personnages. Sienna. Sienna, en fait, ça vient de Siena, donc c'est la vraie étymologie du nom. Donc Siena qui veut dire terre de Sienne. Terre de Sienne, parce qu'en fait, terre de Sienne, c'est la couleur qu'on utilise en peinture pour pouvoir peindre les personnes d'ascendance noire. Le personnage d'Alita, Alita qui signifie guérisseuse. Un nom qui est grec qui signifie guérisseuse. Salim qui est un donc Salim qui a une origine donc plus arabe, c'est en fait pour retomber sur ça. Nadir, alors le Nadir c'est le contraire du zénith. Alors, on connaît beaucoup le zénith quand le soleil est au zénith, mais quand le soleil est au Nadir, c'est que le soleil en fait il est quasiment à l'horizon, il va disparaître. On appelle ça le nadir. Et en fait, c'était en fait basé autour de ça. Leto. Leto est basé autour du nom de la mère d'Artemis, c'est l'Apollon, dans la mythologie grecque.
C'est ce que Salomé avait dit tout à l'heure.
Et en fait, dans la légende, Leto, en fait, elle s'enfuit, elle est poursuivie par Hera, et elle va en fait donner naissance à Apollon et Artemis sur une île. Donc ça rejoint un petit peu donc nos légendes. Éole, qui est en fait basée sur le dieu vivant, donc dieu vivant dans la mythologie grecque. Alexander Torquemada, qui est basé sur deux personnages, donc Alexandre le Grand, donc le conquérant, et Torquemada, qui est en fait donc un personnage de l'Inquisition espagnole durant le Moyen-Âge, donc Inquisition en fait qui était une espèce de comité religieux qui en fait pourchassait donc d'abord les sorcières, mais tous ceux qui ne respectaient pas la religion, et ils étaient en fait torturés puis tués. Donc, et Torquemada, ce personnage dans l'Inquisition espagnole, est resté comme le plus redoutable inquisiteur qui ait connu l'histoire. Donc, en fait, c'est basé sur ça. Quel autre personnage? Megan Strige. Megan Strige, alors Strige, ce sont des créatures ailées, vampires de la mythologie grecque et romaine. Alors, pour quelle raison ce nom? Parce qu'en fait, ça se reporte directement donc à une autre histoire qui va apparaître donc en bande dessinée. En fait, Megan Skin, en fait, avant d'être donc cette présidente que l'on a vue dans le film, c'était en fait un hacker et qui avait un groupe, et son groupe c'était les Stritch. Kaiser Boons, donc Kaiser, parce que Kaiser, c'est un nom allemand qui est donné en fait au chef d'État, qui était donné au chef d'État, parce que je ne sais plus s'il est utilisé aujourd'hui. Boons, parce que c'est un nom qu'on retrouve chez les anglo-saxons. Donc Boons, en fait, c'est un homme de main. Et Boons, en fait, c'est l'homme de main, on va dire, de Sable Rêve. Sable Rêve, Mente Monde, donc tous ces noms-là sont pensés effectivement pour correspondre à quelque chose de bien particulier. Et les attaques. Alors, les pouvoirs correspondent à des, des mythologies, donc mythologie, mythologie créole, donc martiniquaise, donc avec le souquenillon. Alors, on ne voit que le souquenillon, mais il y a pas mal d'autres attaques qu'on n'a pas montrées dans le film et que vous verrez dans les deux. Des légendes égyptiennes, donc Amon-Ra, Sekhmet, mythologie gréco-romaine, donc avec Jupiter. Et sinon, j'ai vu d'autres attaques. Alors, il y a aussi les légendes des armes européennes, donc notamment les épées, puisqu'en fait, Torquemada, toutes ses attaques sont basées sur des noms d'épées. Donc, il utilise Excalibur, il utilise Damoclès, mais il a d'autres attaques telles que Durandal, Saumon en dégâts. Donc, voilà. Donc, Oramame aussi, qui utilise donc comme attaque Hadès. Les attaques d'Oramame sont basées sur généralement tous les dieux et déesses de la mort. Donc, on retrouve dans toutes les attaques, en fait, on a des noms d'un dieu, d'une déesse ou d'une créature d'une mythologie dans ce monde.
Et l'attaque Imanis ?
Alors, Imanis, c'est un nom latin qui signifie le monstre qui est en moi. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Et Imanis, c'est l'attaque qu'il lance pour pouvoir en fait faire sortir en fait le côté monstrueux de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc, cette attaque a été conçue dans ce sens-là.
Eh bien, merci beaucoup. Et c'est un plaisir.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé le film.
Moi
et
aussi.
À bientôt.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.